C'est mon privilège d'être ici avec nous d'ici à la Prairie depuis plusieurs années maintenant et de voir à quel point est-ce que l'Église grandit. Alors merci à tous ceux et celles qui sont avec nous depuis des années, mais également à ceux qui se joignent avec nous. On est vraiment contents de vous avoir dans la famille Nouvelle Vie, la Prairie. Et ce matin, c'est mon privilège de vous apporter la parole dans cette thématique « Le Dieu que tu ne connais pas ». Alors, Sophie m'a déjà présenté comme une personne bavarde. Alors, s'il vous plaît, cancellez tous vos plans pour l'après-midi. On va regarder. Je pense qu'on va passer au travers de toute la Bible aujourd'hui. Non, vous inquiétez pas. Le Dieu que tu ne connais pas dans cette thématique. La semaine passée, Pasteur Sophie a apporté sur la paix. Et tout au long de cette thématique, on a découvert ou peut-être redécouvert des facettes de Dieu. Alors, j'espère que cette thématique vous bénit en ce moment. Et dans quelques instants, on va plonger dans le message. Mais juste avant, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Alors, l'année passée, alors que nous sommes en hiver, nos chers pasteurs Ben et Sophie ont deux enfants, n'est-ce pas? Jackson et Lenny, pour ceux qui les connaissent. Et alors qu'ils avaient un tournage à l'église, ils m'ont demandé d'aller chercher leurs enfants à la garderie et à l'école. Et il faut savoir que je n'ai pas d'enfants, donc c'était une première pour moi d'aller chercher des enfants à une garderie et à l'école. Aucune idée, un petit peu. Donc voilà, ils me briefent, ils me disent « Ok, tu déposes ta voiture chez nous à la maison et tu vas à pied. La garderie est environ à une dizaine de minutes, tu peux y aller à pied et tout ça. » Moi, je dis « Super, ça a l'air facile. » Il me donne l'adresse, je mets dans mon GPS. Et là, quand je vois le nombre de minutes que le GPS me dit 30 minutes à pied. Okay? Là, je me dis « C'est le GPS, il prend en compte que c'est quelqu'un qui marche lentement. Moi, je suis jeune, okay, je marche vite. Ça va pas me prendre 30 minutes, ça va me prendre genre 10-15 minutes. » D'accord. Là, ils m'ont dit « Ok, quand tu vas chercher les enfants, tu peux également prendre un traîneau avec. » Okay? Je vous expliquer, on est en hiver. Moins 15 degrés, ressenti moins 20. Je vois dans vos yeux, vous avez hâte, ça s'en vient dans quelques semaines, ça s'en vient, OK? Ce genre de journée où il fait tellement froid là que ça, même tes os ont froid, OK? Et au Québec, on dit, il fait frais, d'accord, OK? C'est vraiment une de ces journées-là, bref. Et là, je commence à marcher, d'accord, en direction de la garderie. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nos téléphones, qui sont des machines extraordinaires, mais supportent mal le froid. À partir d'un certain nombre de degrés, je ne sais pas pourquoi, en tout cas le mien. Et là, je vois la batterie de mon téléphone passer de 80, 70, 50%, 20%. Et là, je vois la garderie qui est effectivement à 30 minutes de marche. Je la vois au loin et mon téléphone n'a plus de batterie. Je me dis, OK, bon, au moins, je suis arrivé à destination. J'arrive. Et là, je dis « Bonjour, je viens récupérer un enfant qui n'est pas le mien. » OK, déjà là, ça part mal. OK, ça partait mal. Je dis « Bonjour, je viens récupérer un enfant qui n'est pas le mien. Je viens récupérer Jackson. » Et là, la madame me regarde et me dit « Monsieur, on n'a pas de Jackson ici. » Et là, dans mon cœur fait un bond, bien évidemment. La panique s'empare de moi et je me dis mais je suis où, en fait? Parce que je sais même pas dans quelle... Je connais la ville, mais c'est pas ma ville. Je suis perdu en ce moment. Et là, la madame, elle m'explique qu'en fait, il y a deux garderies qui ont le même nom. Et moi, j'ai mis le mauvais nom de la garderie. Et ce qui est encore plus extraordinaire, OK, c'est que là, mon téléphone se ressuscite par miracle. Et en fait, c'est que j'ai marché dans l'autre direction. Donc, la garderie est maintenant à 40 minutes à pied de l'autre. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et moi, je sais pas comment ça marche, d'accord, les histoires de garderie. Je sais pas jusqu'à quelle heure je peux aller chercher. J'ai aucune idée, OK? Et là, c'est la panique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, OK, je prends mon traîneau et je commence à courir, OK? Je commence à courir dans une ville que je ne connais pas. Et je me dis, Seigneur, faut que tu fasses quelque chose, là. C'est pas possible en ce moment, ce qui m'arrive. Et là, je vois une madame qui fait un U-turn dans un stationnement, OK? Je fais jamais ça. Mais là, je vais vers la madame, OK? J'arrête son auto comme ça. Je dis, madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Dans quelle direction vous allez? Est-ce que vous pouvez me lifter? Puis la madame, un petit peu surprise comme ça, elle me dit, oui, j'ai pas l'habitude de faire ça. Alors là, je rentre dans sa voiture, je suis avec mon traîneau, comme ça. Et là, je me dis, merci, Seigneur. Finalement, elle m'amène à destination. Je vais chercher les enfants de Pasteur Ben, Pasteur Sophie. Tout va bien. Et là, je me dis, je fais semblant de rien. OK, j'écris à Sophie, tout s'est bien passé, etc. On dit toujours, on n'a pas deux chances de faire une première impression. Donc, je fais semblant que tout va bien. Et là, j'arrive chez eux à la maison. Tout ça, tout est correct. On rentre. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai un réflexe, OK, qui est presque un tic. Je vérifie toujours si j'ai clé, portefeuille, téléphone. OK, peut-être que vous êtes comme moi aussi un petit peu. Je fais ce genre de mouvement. Et là, à ce moment-là, je sens qu'il manque quelque chose dans ma poche. Et je ne sais pas, mais quand tu réalises que tu as oublié quelque chose, c'est comme si tu vois l'image dans ta tête. C'est comme si tu réalises le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis allé à la première garderie,
Il y a un système qui a été mis en place par les garderies, peut-être un système diabolique, je ne sais pas, mais à l'entrée, il faut déposer tes clés pour comme ça, à l'intérieur, ils savent le nombre de parents qui sont là. Mais moi, comme j'étais tellement paniqué, je suis parti en courant, j'ai oublié mes clés à l'autre garderie qui est en ce moment à 40 minutes. Mais mon auto est là devant la maison, mais j'ai pas les clés. Les clés sont à 40 minutes. Bref, tout ça pour finalement devoir texter à Pasteur Ben, Pasteur Sophie, leur expliquer la situation, d'accord, ok. Et merci. Ils ont été gracieux, ils ont été gentils, ok. Ils me l'ont même confié leurs enfants une deuxième et une autre fois. Alors, je sais pas si ils sont vraiment gentils, d'accord. Ils font vraiment preuve de grâce. Ils vivent l'Évangile. Est-ce qu'on pourrait les remercier? Et la morale de l'histoire, bien évidemment, c'est qu'il ne faut pas me demander d'aller chercher vos enfants à la garderie, bien sûr. Non, plus sérieusement, la morale de l'histoire, c'est que j'étais tellement reconnaissant pour une seconde chance. Premièrement, de cette madame, n'est-ce pas, qui était un petit peu comme un ange pour moi cette journée-là, qui m'a lifté, mais également de la part de Pasteur Ben, Pasteur Sophie. Et c'est la même chose dans nos vies, n'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants pour le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui nous donne à nouveau une chance. Le Dieu qui est fidèle envers nous. Peu importe les erreurs, peu importe à quel point nous sommes imparfaits, Dieu, il est fidèle avec nous. Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir le Seigneur avant de commencer? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, le Dieu de la deuxième chance. Et on va regarder un texte ensemble dans Jean chapitre 8. Et si vous êtes familier avec les textes bibliques, c'est une histoire que vous connaissez probablement. Alors on va lire ensemble Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais et ne pêche plus. » Amen. Quel texte incroyable, réellement, pour vous résumer encore une fois rapidement le texte, d'accord? Il y a les opposants de Jésus qui lui amènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère pour lui tendre un piège. Mais Jésus, dans sa grâce, dans sa compassion, ne condamne pas cette femme-là. Il écrit quelque chose dans le sable, tous les accusateurs s'en vont et Jésus lui dit « va et ne pêche plus ». Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce texte, il y a tellement d'aspects d'angle qu'on pourrait regarder. Je veux juste amener une première particularité. Lorsque Jésus parle à cette femme et il lui dit « femme », c'est une marque de respect à l'époque. Okay, aujourd'hui, on ne parlerait pas comme ça, mais pour l'époque, c'était bien sûr une marque de respect. Et également, il y a quelque chose de particulier dans ce texte, il y a quelque chose de spécial, on pourrait dire. C'est les gens amènent cette femme qui a été prise en flagrant d'adultère. Vous avez peut-être déjà entendu cette réflexion-là, mais où est l'autre personne? Aux dernières nouvelles, il faut deux personnes pour commettre un adultère, n'est-ce pas? Et on ne sait pas où est l'autre personne. Est-ce qu'elle a réussi à s'enfuir? Est-ce qu'ils ont volontairement amené juste la femme? On n'a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est uniquement la femme qui est là. Donc, ils arrivent pour tendre un piège à Jésus. Et ils ne sont pas venus en quête de justice, d'accord? On pourrait dire, ils voulaient faire respecter la loi. Non, au contraire, ils voulaient réellement mettre Jésus dans une position délicate. Ils voulaient le piéger publiquement, alors qu'il enseignait dans le temple, à l'extérieur du temple, ils voulaient le piéger aux yeux de tous. Un petit peu comme lorsqu'on était ado peut-être, et qu'il y a des invités à la maison, il y a peut-être des ados qui vont me dire « merci Livio de parler pour moi en ce moment ». Il y a des invités à la maison, et là les parents demandent « alors mon fils, t'as eu des bonnes notes cette semaine ?» Et là les enfants sont un petit peu pris, ils n'ont pas le choix. Soit ils disent, ils mentent, et puis bon, ben ok, là les parents savent qu'ils mentent, ou alors ils vont dire non, j'ai pas eu des bonnes notes, et là leur réputation auprès des invités, elle est un petit peu éternie. Et c'est un petit peu la même chose que les pharisiens, les scribes, les opposants à Jésus essayent de le faire. Ils essaient de le mettre devant un dilemme. Soit Jésus doit aller contre la loi de Moïse en disant qu'il ne faut pas lapider cette femme. Mais en fait, Jésus aurait perdu son autorité, sa crédibilité. Il aurait même pu être accusé par les tribunaux religieux. Soit il aurait dit, d'accord, on va condamner à mort cette madame, cette femme. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les commentateurs nous disent que c'était quelque chose qui était très peu appliqué à l'époque, au premier siècle en Palestine. C'était très impopulaire, d'accord, ce genre de sentence publique. Et ultimement, c'était seulement les Romains qui avaient le droit de prononcer une sentence de mort, n'est-ce pas? À la fin de l'histoire de Jésus, on voit que Jésus doit passer devant Ponce Pilate. C'est uniquement lui qui peut décider. Et ultimement, Jésus, on le connaît, il est plein de grâce, il est plein de compassion, alors ça n'aurait fait aucun sens. Bref, Jésus est piégé en quelque sorte, il est piégé devant ces deux situations, mais qu'est-ce que Jésus va faire? Et Jésus se baisse et il écrit quelque chose dans le sable. Et la question que vous posez, mais c'est quoi, Livio, qu'il écrit dans le sable? On ne sait pas, le texte ne nous le dit pas, mais on peut supposer quelque chose. On suppose que Jésus commence à écrire la liste des péchés, la liste des erreurs que les pharisiens, les scribes qui avaient amené cette femme, ils commencent à écrire la liste dans le sable. Et tour à tour, envahis par leur honte, leur culpabilité, ils ont décidé de quitter. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus, il ne nie pas le péché de cette femme, mais il met en lumière le péché de ceux qui l'accusent. Et ce qui est incroyable dans ce texte, c'est qu'à part Jésus, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. La femme, premièrement, est coupable, mais les pharisiens et les scribes qui amènent sont également coupables. Et c'est mon premier point pour nous aujourd'hui, tous coupables. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que alors que les pharisiens représentaient l'autorité religieuse, ils avaient l'habitude de juger, et là, c'est eux-mêmes qui se sont fait porter un jugement. Chez nous, on dirait, c'est l'arroseur qui est arrosé. Le jugeur jugé. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Et ce que j'aime avec ce récit, c'est que tous, ici, on se retrouve à quelque part dans ce texte. À un moment donné dans nos vies, ou peut-être même cette semaine, on était une de ces personnes. Et parfois, on est cette femme. Parfois, on est cette femme adultère. Peut-être que ce n'est pas l'adultère qu'on a commis, mais c'est un autre péché. Le mot péché dans la Bible veut simplement dire manquer la cible. C'est une erreur. C'est lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Et peut-être nos erreurs ne sont pas publiques comme cette femme. Elles sont peut-être privées. Mais Dieu, lui, sait tout. Dieu, lui, voit tout. Il connaît tout. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes ces accusateurs. Nous sommes ces pharisiens qui amènent cette femme au pied de Jésus. On est tellement prompt, c'est tellement facile pour nous de voir les erreurs dans la vie des autres qu'on en oublie les nôtres. Matthieu 7, 3 nous dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» C'est tellement facile, n'est-ce pas, d'être frustré, exaspéré par les gens autour de nous. Mais les pharisiens, lorsqu'ils ont vu les péchés écrits dans le sol, ça leur a fait comme un effet de miroir. Ils se sentent accusés sous le poids de leurs propres péchés. Et bien souvent, c'est la même chose pour nous. On prie pour que les gens changent autour de nous. Alors qu'en fait, c'est nous qui avons besoin de changer. On prie pour que nos situations changent. Et c'est une bonne chose, il faut le faire. Mais Dieu aimerait nous changer dans nos situations. Et quand on regarde ce texte, je l'ai dit tout à l'heure, on réalise que nous tous, nous sommes coupables. Romains 3, versets 9 à 12 nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y a pas même un seul. » Bienvenue à l'église ce matin. Et ce texte, il est pour moi ce matin. Premièrement, il est pour moi. On est tous coupables. Et la définition de la culpabilité, d'être coupable, c'est quelqu'un qui est responsable d'une faute, responsable d'un mal, qui est à l'origine d'une faute et qui doit porter l'entière responsabilité. Et ce matin, vous dites, mais Livio, moi j'étais venu quand même à l'église pour entendre une bonne nouvelle, une parole d'espoir. Vous inquiétez pas, j'arrive. Mais avant d'entendre la bonne nouvelle, il faut que vous entendiez la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est celle que vous êtes coupable. Celle que nous sommes coupables, que je suis coupable. La Bible nous dit que nous sommes pécheurs, non seulement par qui nous sommes, mais aussi par ce que nous faisons. Combien souvent on fait le mal, combien souvent on dit des paroles, combien souvent on regarde des choses qu'on fait qui ne sont pas selon les standards de Dieu. Et même parfois, lorsqu'on fait le bien, on n'a pas les bons motifs. On fait le bien pour se donner bonne conscience ou parce que ça nous rapporte quelque chose, ou parce qu'on ne veut pas décevoir Dieu ou les autres. Nos motifs ne sont pas bons. Est-ce que j'offre un cadeau à ma femme pour lui faire plaisir ou parce que je n'ai pas envie qu'elle me chicane? Et ce matin, peut-être, vous n'avez pas commis un adultère physique. Et vous n'avez peut-être même jamais fait de mal à quelqu'un. Mais la Bible nous dit que si nous avons fait ces choses dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées, c'est comme si on l'avait fait. Dites-le, l'idiot, le standard, il est élevé. Absolument, c'est le standard que Jésus amène. Que ce qui se passe dans notre cœur est tout autant important que ce qui se passe dans nos actes. Et ce matin, bien évidemment, je ne viens pas en accusation devant vous. Je m'inclus, évidemment. La question que vous pouvez vous poser, c'est, mais Livio, si on est tous coupables, si comme tu le dis, je suis à ce point mauvais, imparfait, mais pourquoi ton Dieu, qui est parfait, qui est bon, qui est juste, pourquoi est-ce qu'il voudrait de moi? La réponse, c'est mon point numéro 2, tous coupables, mais aimés. Dieu t'aime. Dieu t'aime, peu importe qui tu es dans ce lieu, peu importe comment tu es entré dans ce lieu, Dieu t'aime. Dieu te connaît avant même que tes parents t'ont voulu, t'ont pensé. Dieu t'aime, Dieu te connaît. Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Même si tu n'as pas de cheveux, Dieu te connaît quand même. Avant même que tu existais, il t'avait pensé, choisi, imaginé. Il t'a destiné une vie incroyable. Mais Livio, tu vois, l'amour que tu parles, je ne le ressens pas. On l'a chanté tout à l'heure. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas. Tu vois, cet amour-là dont on parle à l'église le dimanche, j'ai l'impression que je n'arrive pas à le voir, j'ai l'impression que je n'arrive pas à le ressentir. Puis, quand je vis des combats, j'ai l'impression d'être seul. Laisse-moi te dire ceci, peut-être que tu ne vois pas Dieu, peut-être que tu ne l'entends pas, mais il est là. Dieu est là avec toi. Dieu marche avec toi dans l'épreuve. Dieu fait les premiers pas. Tu n'as peut-être pas l'impression, mais Dieu te garde, Dieu te guide, Dieu est avec toi. Amen. Et l'amour de Dieu est manifesté pas seulement en parole, mais en action. Dieu est l'amour. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Dieu est l'incarnation parfaite de l'amour. Jean 3, 17 nous dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Tu vois, tu es tellement aimé, tu es tellement chéri, apprécié, que Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, ce qui comptait le plus pour lui, son propre Fils, pour que toi, malgré ta culpabilité, malgré ta honte, tu puisses être accepté par Dieu. Tu es plus pécheur que ce que tu penses. Tu es plus coupable que tu penses. Je le suis. Mais tu es plus aimé que tu peux l'imaginer. Tu es plus aimé que tu peux l'imaginer. Lorsque nous réalisons l'ampleur de l'amour de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, ça nous donne simplement envie d'aller vers lui, de tout lui donner. On est tous coupables, mais on est aimé. Et bien évidemment, l'amour de Dieu est manifesté par la grâce, qui signifie une chance, une faveur imméritée. C'est deuxième chance que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Mais l'amour de Dieu est également manifesté par la vérité. Et dans le texte, on le voit, lorsque cette femme est amenée aux pieds de Jésus, Jésus aurait pu dire, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Non, Jésus arrive avec la vérité. Il lui dit « Va et ne pêche plus ». Il ne la condamne pas, mais il lui dit également la vérité. Et quelle plus belle preuve d'amour que de recevoir, que de donner la vérité. Et parfois, la vérité est difficile à entendre, mais le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, que l'on puisse donner. Et c'est un encouragement peut-être pour ce matin, quelqu'un, tu as besoin de donner de la vérité à quelqu'un autour de toi. Je ne sais pas exactement quoi, mais donne la vérité autour de toi en ce moment. Dieu nous aime, peu importe nos actions, peu importe qui nous sommes, mais il désire que nous vivons une vie juste, une vie selon ses voies. Et on ne connaît pas le cœur des pharisiens, des scribes qui ont accusé cette femme, mais on sait une chose, c'est qu'ils sont partis à cause de leur faute. Lorsqu'ils ont vu les péchés écrits dans le sable, ils sont juste partis. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient venus aux pieds de Jésus plutôt que de partir? Écoutez bien ceci. Il faut que la réalisation de notre culpabilité mène à une repentance, sinon elle ne sert à rien. Si comme les pharisiens, on voit la culpabilité chez les autres, à un moment donné, on la voit chez nous, mais on ne fait rien, il ne se passe rien. Il faut que lorsqu'on réalise qu'on est coupable, lorsqu'on réalise, il faut qu'on aille aux pieds de Jésus. Et c'est ce que la Bible appelle la repentance. Ça veut dire faire un 180, un demi-tour, retourner totalement à Dieu, un changement de direction. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il est fidèle et juste. Si nous nous repentons d'un cœur sincère, si nous venons à Dieu, peu importe qui nous sommes, ce que nous avons fait, il est juste et fidèle, il nous pardonne. Amen. Et lorsqu'on parle de repentance, bien évidemment, il y a cette notion de reconnaître, mais ça doit venir de notre cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement des mots qu'on prononce, ça vient du cœur. Et pour être souvent avec des jeunes, avec des ados, une chose que je remarque, c'est que bien trop souvent, les jeunes, et je pense que ça parle à tout le monde ce matin, mais c'est tellement facile de retarder notre obéissance. Je le ferai demain, Livio. Je comprends ce que la Bible me demande, je comprends les standards de Dieu, mais en ce moment, dans ma vie, il y a le travail, le stress, les enfants, j'aimerais bien un peu profiter. Okay? Je vais obéir à Dieu, mais demain. Et j'aimerais te dire ceci, je pense que c'est une erreur. Je pense que les accusateurs, les pharisiens, les scribes auraient dû venir directement aux pieds de Jésus. Et peut-être c'est la même chose aussi. Il y a une situation dans ta vie que tu connais en ce moment. Et Dieu vient avec la vérité et dit, c'est cette direction-là que tu dois prendre. Ne retarde pas ton obéissance. Ne la remets pas à demain, ça sera encore plus difficile. Fais-le aujourd'hui. Et la Bible nous dit que nous sommes tellement aimés que nous sommes rachetés. Parce que Dieu aurait pu simplement nous créer, être fier de nous, un petit peu comme des parents, et ça s'arrêtait là. Mais ce que Jésus a fait est encore plus grand. Car Jésus est à la fois compassion, mais il est justice. Jésus ne peut pas laisser le mal impuni. Il ne peut pas laisser juste le mal comme ça, sans rien. La Bible parle d'une dette, n'est-ce pas? Si vous connaissez l'image de la justice avec une balance, lorsque nous faisons une erreur, il y a une conséquence. Il y a des conséquences à nos erreurs et ces erreurs-là doivent être payées d'une façon ou d'une autre. Et ces erreurs-là nous séparent de Dieu. Et plutôt que de nous juger, Dieu a fait plus que ça. Il a décidé de payer la dette à notre place, alors que c'était impossible pour nous de la rembourser. Alors que pour nous, c'est inconcevable, infaisable. Dieu a décidé de le faire à notre place. Dieu nous a rachetés. Laisse-moi dire ceci ce matin. Dieu veut t'offrir une deuxième chance. Dieu veut t'offrir cette chance-là. La manière dont Jésus traite cette femme, c'est la manière dont Jésus te traite. Jésus me traite. Il dit « va », il te relève, il me relève, il dit « va » et ne pêche plus. Et de la même manière, nous devons traiter les gens autour de nous. De la même manière, nous devons traiter les gens autour de nous. Avec amour, compassion, respect, non-jugement, mais parfois en leur disant la vérité. Trop souvent dans la vie chrétienne, on veut traiter les symptômes, mais pas la maladie. Je vais appeler les musiciens. Et trop souvent, on a l'impression qu'il faut changer avant de pouvoir s'approcher de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, c'est l'inverse. Alors que tu t'approches de Dieu, tu vas commencer à changer. Trop souvent, on veut traiter les symptômes, mais c'est l'intérieur qui doit changer. Ce qui compte, ce n'est pas tes œuvres extérieures, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton ministère, ton service pour Dieu. Ce qui compte, c'est la transformation intérieure, la transformation de ton cœur. Si tu es changé à l'intérieur, tu changeras à l'extérieur. Arrête d'essayer de tout changer autour de toi. Commence par changer ton propre cœur. Tous les changements d'habitude commencent par un changement de cœur. Bien sûr, prier, lire la parole, écouter des louanges, toutes ces choses sont importantes. Mais nous devons commencer par le début. Nous devons commencer par l'intérieur, par changer notre cœur. Alors que j'arrive vers la fin de mon message, j'aimerais terminer par une autre histoire pour vous illustrer l'amour de Dieu, pour vous illustrer la seconde chance que Jésus, que Dieu nous donne aujourd'hui. Alors que Jésus est amené devant Ponce Pilate, qui à l'époque était le gouverneur de Judée, il avait le pouvoir de décider si oui ou non Jésus allait être mis à mort. Et vous connaissez cette histoire. Jésus est trahi et tous les opposants essayent de mettre un complot pour pouvoir tuer Jésus, l'amener à la croix, car Jésus, beaucoup de troubles qui se passaient à l'époque. Et c'est Ponce Pilate qui a le dernier mot, car c'était l'autorité romaine. Et les opposants essayent de le manipuler. Ils veulent faire mourir Jésus. Et voici ce que Pilate dit. On va lire ensemble dans Jean 18, verset 40. Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Comme il est d'usage chez vous, je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Décidez donc, vous relâcherai-je le roi des Juifs ? Alors, ils se remirent à crier. Pas cet individu, mais Barabbas. Or, Barabbas était un bandit. Il y a une image qui apparaît derrière moi simplement pour vous illustrer la scène. Ça peut peut-être vous aider, c'est une peinture. On sait peu de choses de Barabbas. On sait que c'était un meurtrier, on sait que c'était un leader rebelle au gouvernement qui a fait des choses horribles. Et là, Ponce Pilate a le choix de libérer quelqu'un pour la Pâque. Il a le choix de pouvoir relâcher un prisonnier. Et logiquement, pour lui, il voulait relâcher Jésus car il avait l'impression que Jésus n'avait rien fait de mal. Et là, la foule commence à scander le nom de Barabbas. Il commence à crier, « Relâchez-le, relâchez-le !» Mais Barabbas, meurtrier, il s'en va, libre, sous les acclamations de la foule. C'est scandaleux, mais pourtant c'est vrai. Comment est-ce possible? La foule a préféré un bandit à Jésus. Jésus, lui, enchaîné, il reste en silence, il dit rien. Il aurait pu clamer son innocence, il aurait pu se défendre, mais Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'à la croix. Alors que Barabbas méritait pleinement de mourir, c'est Jésus qui a pris sa place. Il fallait que Dieu traite Jésus comme Barabbas pour que Barabbas soit vu comme Jésus aux yeux de son Père. Jésus, l'innocent, s'est fait coupable pour que Barabbas, le coupable, soit innocenté. Barabbas a dû se dire, mais waouh, c'est le peuple qui m'a libéré. C'est le peuple qui m'a rendu libre. Non, c'est l'amour de Dieu qui l'a rendu libre. Et quand on regarde cette histoire de plus près, on réalise que Barabbas, c'est nous. Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est moi. Alors que Dieu n'avait besoin d'aucune raison pour nous pardonner. Alors qu'on méritait. Alors qu'on est tous coupables, imparfaits. Alors qu'on méritait ces conséquences. Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Dieu aime Barabbas. Dieu aime cette femme adultère. Dieu aime les pharisiens. Dieu aime les scribes. Même si les gens ne l'aiment pas en retour, Dieu les aime quand même. Et j'aimerais te dire ceci, Dieu t'aime toi. Dieu t'aime tellement qu'il veut te sauver. Dieu t'aime tellement qu'il vient te chercher là où tu es. Et ce qui s'est passé avec Barabbas, c'est une anticipation de quelques heures après cette scène. On voit que Jésus va jusqu'au bout à la croix. Il pousse son dernier souffle en pensant à toi, à moi. Dieu t'aime. Alors qu'on méritait tout cela, Jésus a pris notre place. Et peut-être tu te dis ce matin, mais Livio, moi, je mérite cette culpabilité. Moi, je mérite cette honte. Moi, je mérite les conséquences. Jésus te dit quand même, laisse-moi prendre ton péché. Laisse-moi avoir tes soucis. Laisse-moi avoir tes peines. Laisse-moi avoir ce qui te tracasse. Et peut-être tu dis, mais Seigneur, si je tombe encore, si je le fais encore. Mais Jésus te dit, je serai encore là. Ce matin, Dieu aimerait te donner une deuxième chance. Es-tu prêt à l'accepter? Es-tu prêt à accepter cette grâce, cette faveur, alors que tu ne le mérites pas? Comme cette femme adultère, comme Barabbas, comme moi avec mon histoire de garderie. On voit tellement d'exemples dans la Bible où Dieu donne une deuxième chance. Ou alors que des gens étaient tellement loin, ont fait tellement de mal, être rétablis, avoir cette nouvelle chance. Abraham, Sarah, Noé, Moïse, David, Matthieu, Zachée, Pierre, Paul. la femme adultère, Barabbas. Laisse-moi te dire ceci, il veut le faire avec toi. Il désire le faire avec toi. Et c'est ton choix aujourd'hui. Tu peux rentrer, tu peux repartir comme tu es entré. Ou tu peux repartir avec l'assurance que tu es aimé, accepté, soutenu. Tu peux repartir avec l'assurance que malgré la maladie, malgré l'épreuve, malgré tes échecs, malgré peut-être un divorce, malgré peut-être un enfant qui passe par une situation compliquée, tu peux repartir avec l'assurance que Dieu marche avec toi, que Dieu combat pour toi, que la victoire est déjà remportée. Tu peux repartir avec cette assurance que tu es un enfant, un fils, une fille de Dieu. Ce matin, pars avec cette assurance. Pars avec cette assurance, elle vaut plus que tout. Elle vaut plus que toutes les belles choses que le monde peut t'offrir. Elle vaut plus que toute la richesse, la gloire ou la célébrité. L'assurance d'être un enfant de Dieu, l'assurance d'être racheté, l'assurance d'être sauvé, vaut plus que tout. Même lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, même lorsque tu passes par des moments tellement, tellement difficiles, Dieu est avec toi. Dieu a déjà remporté. Dieu t'aide. Dieu veut te tenir la main dans ce moment-là. Aujourd'hui, on a vu ensemble cette histoire de cette femme qui était coupable. On a vu l'histoire de Barabbas. Et on regarde à nos histoires, on regarde à notre propre vie. Et on réalise à quel point est-ce que nous-mêmes avons besoin de cette seconde chance. Tous ici, peu importe dans ce lieu, on a besoin de réaliser Jésus, on a besoin de réaliser cette seconde chance. J'aimerais te dire ceci, Dieu n'est pas uniquement le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu d'une autre chance. Peut-être tu dis, mais Livio, cette deuxième chance, je l'ai déjà grillée. J'ai déjà grillé toutes mes cartes. Je suis tombé encore et encore. J'ai refait les mêmes erreurs encore et encore. J'aimerais te dire ceci, le pardon t'est offert quand même. Jésus t'attend quand même à bras grands ouverts. Dieu veut quand même que tu viennes à ses pieds. C'est la seule chose qu'il désire, que tu viennes devant lui en toute honnêteté, en toute authenticité, avec qui tu es, avec ton bagage, avec tes erreurs. Il veut que tu viennes devant lui et que tu lui dises, « Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. » Lorsque parfois on vit des moments où on réalise, c'est tellement facile de se cacher, c'est tellement facile de vivre dans l'isolement et de garder à l'intérieur. Mais Dieu nous appelle à proclamer, Dieu nous appelle à nous confesser, Dieu nous appelle à la repentance. C'est une main qui t'est tendue ce matin. Peu importe ce que tu as fait, dis, tu es pardonné. Dieu veut te l'offrir, il veut que tu sois, il veut être réconcilié avec toi. Dieu t'a créé pour que ta vie compte, pas pour que tu comptes les jours de ta vie. Alors que peut-être tu traverses une période difficile en ce moment. Alors que peut-être cette semaine, tu as dit quelque chose. Tu as fait quelque chose que tu regrettes tellement. Alors que tu as consommé peut-être quelque chose que tu n'aurais pas dû cette semaine. Dieu t'offre cette deuxième chance aujourd'hui. Alors que peut-être tu te sens menotté par des relations, alors que peut-être tu te sens lié par des addictions, peut-être par un non-pardon, peut-être qu'il y a une souffrance en toi que personne ne connaît, peut-être que tu te sens menotté parce que les autres pensent de toi, Dieu veut t'offrir la liberté aujourd'hui. Dieu veut t'offrir cette seconde chance. Dieu te tend la main ce matin. Est-ce que tu vas la saisir? Dieu te pardonne pleinement. Tu es racheté. Tu es aimé. Mais Dieu te dit aussi, va et ne pêche plus. Seigneur, merci pour cette opportunité, merci pour cette chance, pour ce pardon qui nous est offert à chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle on se réunit dimanche après dimanche, pour célébrer avec joie, car c'est le plus beau cadeau de l'histoire de l'humanité. Alors qu'on ne le méritait pas, chacun d'entre nous, il est accessible, il nous le donne. Et c'est la plus belle parole d'espoir qu'on peut recevoir pour nos vies, mais qu'on peut offrir également aux autres. Alors Dieu nous appelle non seulement à garder ce message pour nous, mais à le partager autour de nous, à le proclamer. Dieu aimerait te dire ceci, je suis avec toi quand tu as peur. Je suis avec toi quand tu te sens seul. Je suis avec toi quand tu as honte. Je suis avec toi quand tes mauvaises pensées sont là. Je suis avec toi quand tu échoues encore et encore. Je suis avec toi quand tu es triste. Je suis avec toi quand tu penses que tu ne vaux absolument rien. Je te donne cette deuxième chance aujourd'hui. Jésus nous offre l'espoir à chacun d'entre nous. Est-ce que ce matin, on réalise le privilège de ce cadeau? Est-ce que ce matin, on réalise l'ampleur que l'amour de Dieu a pour chacun d'entre nous? Je terminerai en disant, lorsque Jésus va voir cette femme, il dit, je ne te condamne pas. Et ce matin, Jésus ne te condamne pas. Ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait en pensant à toi. Il l'a fait en pensant à moi. Dans quelques instants, on va prendre un chant, mais j'avais à cœur qu'on puisse fermer les yeux, pencher la tête. Alors que ce matin, j'ai lancé un appel d'une main tendue. Et si c'est toi ce matin qui dis, moi, j'ai besoin de cette seconde chance. Moi, j'ai besoin d'une autre chance. C'est moi, Livio. C'est moi, Barabbas. C'est moi, cette femme. Donne-moi une autre chance, Seigneur. Si c'est toi ce matin qui as l'impression, qui sent dans ton cœur que tu as besoin de prendre une décision, j'aimerais t'encourager à lever la main. Pas pour moi, pas pour les autres, mais simplement en signe de reconnaissance de ton besoin, en signe de reconnaissance que tu veux t'abandonner à Dieu. Merci pour les mains qui se lèvent. Qu'on puisse chacun ici réaliser notre besoin quotidien. Ce n'est pas juste le dimanche qu'on a besoin que Jésus nous accompagne, c'est tous les jours. À tous les jours, on a besoin de réaliser ces paroles. On a besoin de réaliser cela. Seigneur, merci. Merci pour le cadeau que tu nous offres. Merci pour cette deuxième chance qui nous est offerte à chacun d'entre nous. On est tellement reconnaissant, Seigneur, de pouvoir te chanter, de pouvoir venir sans condamnation, sans culpabilité devant toi. Alors merci. Merci pour toutes les mains qui sont levées. Que tu puisses les accompagner cette semaine. Que tu puisses mettre du baume sur leur cœur. Que tu puisses, alors qu'ils ressentent peut-être de la culpabilité, de la honte, de la condamnation, que tu puisses les relever. Qu'ils puissent savoir et sentir qu'ils sont aimés, désirés, qu'ils sont des fils, des filles. Père éternel, que tu viennes en ce moment mettre un amour sur eux comme ils n'ont jamais ressenti. Que tu viennes, Seigneur, les faire réaliser à quel point ils sont aimés. Père éternel, on est tellement reconnaissant pour le sacrifice que tu nous as fait à la croix. On est tellement reconnaissant pour l'œuvre que tu as fait, pour cette grâce qu'on ne mérite pas chacun d'entre nous. Merci, Père. Amen. J'ai à cœur qu'on prenne ce chant qui dit « Mon espoir est assuré à la croix. » Alors que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est juste à propos de l'espoir. Alors peu importe ce matin si vous avez pris une décision, si vous êtes croyant ce matin, qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse chanter ce chant. Qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Mon espoir est assuré à la croix. » Qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Tu as tout donné. Tu nous as rachetés. Cet espoir est une ancre pour mon âme. Inébranlable est notre lieu. » Ne quitte pas cet endroit sans avoir déclaré sur sa propre vie. Ne quitte pas cet endroit sans avoir dit à toi-même que tu as besoin, que ton espoir est assuré à la croix, en rien d'autre. Chantons ensemble, ton espoir est assuré à la croix.